jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est réalisatrice et scénariste. Avant de passer derrière la caméra, notre invitée aime la solitude, celle de l'écriture. Puis vient le temps de choisir les personnages et les acteurs, les lieux de tournage, toujours des endroits réels que son œil viendra peindre ou transformer. Aujourd'hui, elle relève un défi. Adapté en mini-série, un roman d'espionnage de plus de 700 pages. La série s'appelle, comme le livre d'ailleurs, de l'auteur D.O.A. Citoyen clandestin. Et on peut la voir depuis jeudi dernier sur Arte et jusqu'en septembre prochain sur la plateforme arte.tv.
Bonjour Laetitia Masson.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci.
Alors Laetitia Masson, on a présenté le livre de D.O.A. Citoyen clandestin comme un livre inadaptable. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu vous aussi quand vous vous êtes lancé dans ce projet-là et apparemment ça ne vous a pas arrêté?
Rien ne m'arrête, mais non, je n'avais pas eu vent de cette qualification. En fait, j'ai lu le livre, j'ai vu quelque chose en lisant et donc je me suis dit je pourrais moi en faire une adaptation. Un peu frondeuse comme ça, mais en fait j'ai une espèce de façon très... clair de voir si on peut fabriquer. J'ai deux casquettes, quoi. J'ai une casquette intellectuelle et une casquette très concrète. Donc j'ai vu que je pouvais le faire avec mes moyens.
Donc vous lisez ces 700 pages. Alors je rappelle, paru en 2007, Grand Prix de littérature policière. C'est le premier d'ailleurs d'un de quatre tomes d'une série consacrée au terrorisme international. C'est ce dont il est question dans ce roman. Vous lisez ce roman et immédiatement, il y a des, comme vous dites, des images qui vous apparaissent. Vous vous dites, voilà, ça se porte, ça se prête totalement à une adaptation à l'écran, en tout cas.
Oui, alors je viens pas de naître en lisant Citoyen clandestin. J'ai lu tout John le Carré, j'ai vu beaucoup de films d'espionnage. C'est un univers qui m'intéresse, le monde politique. J'avais déjà réfléchi, enfin, et comme ce livre-là avait une écriture extrêmement contemporaine, il y a des choses que je n'ai pas pu retranscrire dans le film, mais enfin dans la série. Mais par exemple, il y a un rapport à la musique qui est un rapport que moi je peux avoir. Je pense que D.O.A. a à peu près le même âge que moi, donc c'est une écriture très contemporaine. Et ça se passait dans des territoires que je pouvais, moi, filmer. John le Carré, c'est des choses qui sont vraiment dans des pays lointains. J'ai pas, moi, la carrure de... Enfin, je l'ai, mais on ne me l'accorde pas. La carrure d'un cinéaste à qui on confierait une somme d'argent extraordinaire. Donc, les petits budgets qu'on m'accorde, c'était faisable.
Avant de rentrer dans l'histoire, effectivement, et de parler de la série concrète, quelle est la première image, peut-être, qui vous marque le plus quand vous lisez ce roman-là? Vous vous dites, voilà, ça, c'est sûr, je le mettrai dans mon film ou dans ma série, puisqu'à l'origine, je crois que c'était plutôt, vous étiez parti pour faire un film, plutôt.
Oui, exactement. Ce qui m'intéressait spécialement dans le livre, c'était la question de la culpabilité et de l'innocence. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas d'innocence. Et je suis assez d'accord avec ça. Une fois qu'on connaît le monde, qu'on a analysé, on voit que face aux problématiques, là c'est l'ultra-violence du terrorisme, eh bien, est-ce qu'on peut rester du côté de la frontière du bien? La réponse est non. Mais il ne condamne pas cette réponse, c'est-à-dire il ne condamne pas les coupables de l'État. Il analyse le système et il en conclut qu'on ne peut pas rester du côté du bien.
Nous savons de sources sûres qu'il se prépare une action terroriste en France.
Karim, un nouveau fidèle.
Un garçon très prometteur.
Toutes les grandes œuvres sont des vengeances.
Dans ce cache-mur pour un putain de chef-d'œuvre.
On est en guerre. Une nouvelle forme de guerre, mais on est en guerre.
Mais c'est l'image de la France qui est en jeu. On passe à l'action.
Parce que là, je peux te dire, il n'y a pas de règle du tout.
Je lis le Coran en long, en large et en travers. Je dis à tout le monde que je veux partir au combat. Elle est nickel, ma couverture.
Chaque minute compte.
Tous les risques, c'est moi qui les prends.
Ça vous fait pas peur?
Si, ça me fait peur.
Enquêtez, il faut que ça s'arrête.
Oh, ma sœur, tu fais quoi ici?
Je viens prier.
Toute seule? Il est où, ton mari?
Si vous arrêtez pas tout de suite vos conneries, vous allez avoir des gros problèmes. Ces types sont dangereux.
C'est le meilleur. La mission, c'est empêcher leur grand projet, ici, en France.
C'est quoi la suite?
Voici la bande-annonce donc de votre série Citoyen clandestin que vous avez réalisé, scénarisé. Vous avez aussi écrit les dialogues. Laetitia Masson, c'est sur Arte depuis jeudi dernier et sur arte.tv, on peut regarder les 4 épisodes jusqu'au mois de septembre. On a donc le temps de s'y pencher. On est donc dans ce contexte mondial où la planète entière est bousculée par ce qui s'est passé aux États-Unis en septembre 2001. Et on est donc en France où un groupuscule d'islamistes radicaux prépare sur le sol français un attentat. Et là, il y a une série d'événements qui vient perturber le travail même des services de renseignement. Il y en a plusieurs et évidemment chacun tire la couverture à lui, joue sa partition dans cette France et dans cette paranoïa qui naît à ce moment-là. Ça, c'est la première partie qu'on a entendue dans la bande-annonce. Et puis la seconde partie de l'intrigue, c'est cette jeune journaliste qui devient l'apprentie d'un vieux briscard de l'investigation politique et qui va donc se mettre à enquêter sur notamment des morts suspectes. C'est pas évident, en 4 épisodes, de nous poser l'intrigue et puis de la déployer ensuite.
En fait, ça, c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi, poser l'intrigue et la déployer, mais faire résonner les questions plus profondes, ça, c'est plus compliqué. C'est des enjeux qui, moi, m'intéressent. Quand j'écoute la bande-annonce, là, ça me fait rire parce qu'ils ont mis des musiques, on dirait vraiment un film d'action, etc. Il y a de l'action, ça, c'est une première partie, c'est la première couche pour la première vision, disons, de la série, qui est regardable, comme ça, avec qui fait quoi, pourquoi, est-ce qu'on va arriver à déjouer l'attentat? Et puis derrière ça, il y a les grands enjeux plus politiques de la vérité, du mensonge, je vous disais, du bien, du mal, de la violence versus la diplomatie, enfin des choses comme ça. Et donc effectivement, la jeune fille est une innocente, et c'est la seule innocente, elle est donc pour moi comme le spectateur, c'est elle qui nous conduit dans l'intrigue et qui découvre avec nous la vérité de la politique, on pourrait dire.
Nahilia Arzoun, c'est elle qui incarne donc cette jeune journaliste qui est d'abord une journaliste de presse féminine et qui va justement, et c'est là où vous parliez des thématiques, qui a envie de raconter des histoires et d'enquêter sur quelque chose de plus sérieux, de plus conséquent et d'entrer par le biais de ce journaliste plus âgé dans effectivement la machination politique, dans des sujets qui sont pour elle plus important aussi, qu'elle veut porter, qui vont d'ailleurs bousculer sa vie. On va pas tout raconter, mais c'est ça le cœur même de cette intrigue.
Oui, alors ce qui m'intéressait, c'est que donc ça se passe, comme vous disiez, post 11 septembre, et que le terrorisme qui grouille comme ça, c'est le terrorisme algérien à l'époque, parce que le livre étudie aussi un état politique de la France à ce moment-là, dans les années 2000. Et il raconte un peu, il fait un peu l'historique du terrorisme. Et on se rend compte que c'est la politique de la France colonisatrice par rapport à l'Algérie qui a fait venir des Algériens. Et qu'on sent aussi de quoi se nourrit le terrorisme. Ça raconte ça aussi. C'est-à-dire d'une forme de maltraitance et d'humiliation de certaines populations qu'on a utilisées, manipulées et qui à un moment se rebellent. Donc la série étudie ça aussi. On m'a beaucoup parlé du casting, etc. Mais le casting le plus important et le plus intéressant, c'est tous ces jeunes gens algériens, acteurs aujourd'hui, qui ont accepté avec une grande intelligence et une grande sensibilité de rejouer les méchants de l'époque. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est de travailler sur aussi... c'est de faire réfléchir sur l'histoire de la France, sur comment, d'où vient la violence et de quoi elle se nourrit. Et là, on voit que tout est dans tout. Que la victime a été bourreau, elle aussi. Vous voyez, on voit bien là dans la situation internationale aujourd'hui. Moi, je fais des films pour faire réfléchir les gens à leur présent. Voilà.
Pourquoi vous êtes intéressée par la question du bien, Laetitia Masson ?
Oh, c'est une question que tout le monde devrait se poser dans sa propre vie. C'est-à-dire que je trouve que dans chaque étape de nos vies, on est confronté à ça. Être quelqu'un de bien ou être quelqu'un de mauvais. Enfin.
Mais est-ce que c'est si facile que ça d'être.
C'est très, très, très difficile.
Bon ou mauvais.
Non, justement, c'est très difficile. C'est vraiment une question existentielle, essentielle. Et on est, comme on est traité comme des consommateurs principalement, on a envie d'avoir de quoi consommer, etc. Donc on est prêt très, je trouve que la société nous rend violents et nous rend tout à fait prêts. Enfin, on a toujours une excuse pour être le méchant de l'histoire, quoi. On a des bonnes excuses, c'est vrai, mais c'est pas une raison.
Donc, il faudrait envisager, par exemple, d'être bon aussi dans les moyens, c'est ça que vous voulez dire? Parce que si on parle de la question du terrorisme, si on parle de la question de la colonisation, c'est la question qui se pose, en fait. Comment dans l'histoire? Parce que nous, consommateurs, on peut faire des bons ou des mauvais choix, mais on va pas être radicalement bon ou mauvais à cause de ces choix-là.
Oui, mais je pense qu'on est manipulé. Enfin, moi, je vois, si je regarde le système du cinéma, la façon dont on envisage ce qu'on appelle le public ou les spectateurs, c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que, à la fois, on est sous la dictature de ce que vont penser les gens. Donc, on essaie de faire, de produire des choses, des objets de consommation. Donc, qui sont fabriqués pour ce qu'on imagine leur plaire. Moi, je refuse absolument ce rapport au spectateur. Pour moi, déjà, ça n'existe pas. Je vais parler à des individus avec des sensations et des sensibilités tout à fait différentes. Et j'essaye de parler à leur intelligence et de les laisser se projeter, eux, dans mon film. En fait, je pensais à ça hier en allant voir un autre film. Je pense que les bons films, c'est des films dans lesquels il y a un espace pour se projeter soi-même. Et on ne nous dit pas tout, on ne nous enferme pas dans un prédiscours ou des images déjà vues, etc. C'est des films dans lesquels on est obligé de s'investir et de réfléchir. On les aime, on les aime pas, c'est pas la question. C'est comment ils nous transforment et comment on dialogue avec eux.
Et c'était quoi le film que vous étiez voir hier?
Je saviez que vous alliez demander, j'en étais sûr.
La zone d'intérêt.
Ah non, la zone d'intérêt pour moi c'est un chef-d'œuvre. Donc oui, bien sûr, je peux vous en parler. Bah, là, il faudra à nouveau 40 minutes. Mais non, hier c'était Hors saison de Stéphane Brisé que j'allais voir.
Avec Guillaume Canet.
Avec Guillaume Canet et surtout Alba
Rohrwacher.
Et c'était un de mes grands camarades de travail qui s'appelle Antoine Héberlé qui a fait l'image. Donc tout ça m'intéressait et j'ai passé mon temps à aimer et détester le film.
Ah bah on va pouvoir lui dire du coup.
Non, et à la fin je l'ai aimé parce que justement il m'avait permis d'y mettre moi des choses et de réfléchir à moi-même et de me dire et de je dialoguais sans cesse avec le film. Je me suis dit ben voilà, c'est pas mal.
Alors justement, puisque vous en parlez, qu'est-ce que vous avez mis dans cette série, comment vous l'avez écrite, comment vous l'avez construite, pensée? On va reparler du casting, j'en suis sûr, pour que on puisse rentrer dans cette histoire, pour qu'on puisse se reconnaître peut-être dans certains personnages aussi. Comment ça fonctionne? Quelle est la baguette magique de Laetitia Masson pour nous faire rentrer dans cette série en 4 épisodes?
Ben, je crois que c'est pas si construit que ça, ma façon de travailler. C'est-à-dire que je travaille avec tout ce que j'ai pensé. Je disais à Géraldine tout à l'heure, j'ai beaucoup écouté les podcasts des Chemins de la philosophie. Je me nourris d'un tas de trucs, de choses intellectuelles, de choses concrètes, voilà. Donc, quand j'écris, c'est pas programmatique. Je me dis pas, justement, tiens, je vais faire ça pour amener les gens là, etc., etc. J'écris d'une première traite en essayant que ça soit lisible et compréhensible. Et puis après, je mets ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des espèces de couches supplémentaires qui nourrissent l'image, parce que moi je fais des images et des sons, je fais pas de la littérature. Donc je veux absolument que dans l'image, il y ait des choses non dites, mais qui racontent aussi ce que je disais, la profondeur de l'histoire, quoi. Donc les décors, les costumes, que tout ça raconte quelque chose des personnages sans le dire.
Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a beaucoup parlé du casting, alors je vais le donner. Raphaël Quenard, Naïlia Arzoun, Gringe, Pierre Arditi, Nicolas Duvauchel, Frédéric Pierrot et Laurent Stocker notamment. C'est très varié. Il y a aussi un très beau casting, on peut le dire, mais vous avez choisi d'utiliser ces acteurs et actrices un peu à contre-emploi, en leur donnant un rôle dans lequel on ne les imaginait pas.
Oui, ben c'est ça un peu l'idée, c'est de nourrir les personnages, en fait, de les rendre complexes par le casting. On a souvent l'habitude de dire avec ma casting que 90% du film, il est dans le choix du personnage. Après, on peut diriger bien ou mal, mais là, tous ces acteurs dont on parle sont des acteurs, sont des roles, donc ils sont très très bons. Après, c'est plus intéressant de les amener là où ils sont pas, et surtout, moi, comme j'avais travaillé avec eux pour la plupart. Je connaissais aussi leur personnalité à eux. Donc je me nourris de ça, un mélange de savoir-faire et de ce qu'est vraiment la personne et de là où je vais pouvoir l'amener. Par exemple, Pierre Arditi, c'est un très très grand acteur. Je sais comment lui parler pour qu'il aille chercher en lui des choses plus intimes, mais dans des sources qu'il n'utilise pas d'habitude, quoi.
On a beaucoup parlé de Raphaël Quenard, qui a été à l'affiche de beaucoup de films ces derniers mois. Il joue Lynx, c'est ce mercenaire solitaire qui est plutôt un gros dur, on peut le dire, dans cette série, sans révéler évidemment tout ce qu'il va faire. Mais vous l'avez positionné dans une situation qui n'est pas habituelle, effectivement. Et pourtant, il arrive à être aussi dans l'ambiguïté de ce personnage, un des personnages importants de cette série.
Oui, alors là, c'était vraiment, je l'ai rencontré, enfin, je l'ai choisi bien avant qu'il soit connu. Je n'avais pas vu, les films n'étaient pas sortis. Je l'avais juste vu dans un petit travail d'un étudiant de la Fémis. Et je m'étais dit, ah, ce type est intéressant. Et je ne savais pas du tout que son fond de commerce, on pourrait dire, ou sa personnalité, c'était plutôt le comique et le... Moi, je le voyais, je l'ai tout de suite vu. J'ai projeté sur lui quelque chose d'héroïque, un côté double à la Batman. Mais de fait, ce n'est pas lui. Donc là, on a travaillé ensemble. C'était parfois comme ça un petit combat entre nous, parce que je l'ai amené dans un endroit qui était vraiment pas familier pour lui. Mais ça, c'est très bien. Et je trouve que du coup, il est super dans la série parce qu'il est justement ambigu, qu'il a une innocence et il a aussi. On croit à son côté tueur. Donc, je trouvais que c'était intéressant de l'amener là. C'était... Bon, là, avec lui, c'était pas si évident, mais c'était intéressant.
On parlait de la question du bien et du mal, Laetitia Masson, mais justement, dans ce choix d'acteurs ou dans la direction des acteurs ou dans l'image, comment on fait pour poser ces questions-là sans faire, voilà, une sorte de série sur un grand thème avec une grande question, une grande thèse où vous avez une idée à développer et en disant aux acteurs, là, tu joues le méchant, là, tu vas jouer quelqu'un de double et du coup, ça va être très appuyé.
Ben justement, c'est déjà en prenant des acteurs presque à l'opposé de ce qui représente, ça leur donne déjà une double, une contradiction, disons. Et puis, c'est d'amener du romanesque dans l'action. C'est de traiter le dialogue comme si c'était de l'action, c'est d'amener toujours...
En fait, vous faites toujours l'inverse, quoi.
Ah non,
vous faites
pas
parler
du tout.
Les images, vous prenez des personnages à contre-emploi.
C'est pas systématiquement l'inverse, c'est un effet de profondeur. Alors, des fois, c'est l'inverse parce qu'il faut que ce soit brutal, et des fois, c'est juste ombrer quelque chose. C'est vraiment comme de la peinture, quoi. Ou au contraire, éclaircir quelque chose, c'est ramener dans le dialogue. Je travaille beaucoup les dialogues, alors mes détracteurs me reproche de pas être dans un dialogue naturaliste, mais effectivement, pour moi, les mots, c'est pour ça que...
Vous voulez dire que c'est trop écrit ? On vous dit que c'est trop écrit, que ça sent qu'on parlerait pas comme ça dans la vraie vie ?
Effectivement, hier, dans le film de Stéphane Brisé, je remarquais qu'en fait, il parlait comme on parle là, maintenant. Et moi, pas du tout. Dans les films que j'ai faits, j'ai l'impression, et les séries, pareil, j'amène dans un... Il faut rentrer dans le monde que je propose. Je propose un univers qui est un peu décalé. Mais comme quand on lit, un roman de Faulkner, on rentre dans une langue. Ben moi, c'est pareil, j'assume, je prends le risque. Et
Comme dans un film de Romer, par exemple.
Oui, alors moi, je déteste Romer.
Ah bon? Comment c'est possible?
Ben, je sais pas. Justement, j'ai adoré quand j'étais plus jeune, mais maintenant, non, j'adore Les Nuits de la Pleine Lune, que je vénère. Mais les autres, j'ai du mal avec ce dialogue un peu...
Très littéraire pour le coup.
Très littéraire, mais qui tourne presque sur lui-même, qui est comme une ritournelle. J'aime le mystère, moi. Donc, j'espère écrire des dialogues qui vont dans la bouche de personnages dont on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là? Parce qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il devrait dire. Là, le militaire Steiner, le personnage joué par Frédéric Pierrot, comme je sais que Frédéric est un type très profond, etc., qui a une grande culture et tout, je lui ai fait dire, je sais plus, on parlait de choses très intellectuelles, alors qu'il avait le rôle d'un militaire à la Clint Eastwood.
Pas un télo.
Un télo, non. Enfin, il y a quand même une partie de... Il nourrit son bras droit joué par Raphaël Quenard de citations littéraires. Et donc, c'est paradoxal, puisqu'en fait, eux, leur truc, c'est d'aller tuer des gens. Donc...
Et il y a de la littérature aussi, parce que vous l'abordez dans ce livre de Baudelaire que Raphaël Quenard tient à la main durant quasiment toute la série, sauf peut-être quand il tue. Et ces vers qui sont aussi très présents. Vous parliez de la musique dans le livre. Vous avez choisi de mettre aussi cette poésie en avant dans ces quatre épisodes, Laetitia Masson.
Oui, alors on dit toujours j'ai fait ça. Il y avait aussi tout un aspect économique, c'est-à-dire que le livre est construit sur la musique, les chansons. Et moi, si je demande les droits d'une chanson, c'est que des chansons. Il y a les Cure, il y avait, je sais plus, Bowie. Enfin bon, une chanson de Bowie et c'est fin de.
Il y a plus de budget.
Donc je me suis dit, mais en même temps, c'était très important et je pense que d'être conduit par la musique, ça veut dire qu'on est dans une forme de quête existentielle. Et j'ai remplacé la musique, qui est une chose abstraite, par la poésie, qui est déjà en jeu dans le livre parce qu'il rythme les trois ou quatre parties du livre par justement des vers de Baudelaire, des Fleurs du Mal. Et je me suis dit, tiens, c'est dans le livre, mais je vais extrapoler, je vais l'utiliser différemment pour retraduire ce qu'il faisait avec la musique. Je l'ai mis avec la poésie.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbault, Géraldine Mosna-Savoie.
Moi, je pense que le style, c'est la sincérité, quoi. Je pense pas que le style, c'est quelque chose qui se décide. D'ailleurs, je trouve les gens qui ont du style et puis qui en changent et tout, c'est assez suspect, quoi. Donc, comme ça, avant de commencer le film, je me suis dit, là où je serai sincère, ça sera mon style. Donc, voilà, à chaque fois que j'ai choisi quelque chose, je me suis dit, est-ce que c'est ce que j'aime? Est-ce que c'est moi? Quitte à ce que ça me fasse du mal ou que ça soit un peu honteux, tout. Parce que tout ce qui vient de soi n'est pas forcément génial. Voilà, un costume, ça devait venir de moi, un décor aussi, une phrase, un dialogue. Donc, je me suis dit, bon, si chaque chose vient de moi, au bout du compte, il y aura une cohérence.
La voix du réalisateur Cédric Kahn dans Projection privée, c'était le 19 janvier 1992.
Oui, alors. C'est pour ça que je ne reconnaissais pas sa voix.
C'est pour ça que je vous ai regardé quand j'ai dit la voix.
Ouais. Parce que normalement, on se parle toutes les semaines pratiquement. On va prendre un café. Donc, mais par contre, je reconnais ce qu'il dit et je me reconnais dans ce qu'il dit aussi.
Alors justement, Laetitia Masson, vous, c'est quoi votre style? Vous avez trouvé votre style et effectivement, est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on se dit ça d'ailleurs? C'est pour se donner aussi confiance dans ce qu'on fait?
Non, moi, je pense pas du tout à mon style. Enfin, je crois malheureusement qu'il me dépasse. En fait, j'ai toujours l'impression d'être complètement normale, d'avoir pas de style du tout et d'être banal, enfin. Et puis quand je passe à l'acte de créatif, je vous dis, comme c'est pas tout n'est pas dans la, c'est pas théorique, c'est pas intellectuel, ça devient une chose, c'est plus, c'est vrai que j'évoque tout le temps la peinture, justement ça fait marrer Cédric qui comprend pas ce que je dis ça, mais parce que c'est quelque chose qui m'échappe. Et donc, comme ça m'échappe, apparemment, quand ça m'échappe, ça devient bizarre. Et donc, les gens pensent que c'est justement... Au début, on m'accusait d'être maniériste. Enfin, pas du tout. C'est que je suis comme... Enfin, ça sort comme ça. Après, effectivement, c'est un risque. Après, je retravaille pour que ce soit compréhensible, qu'il y ait une explication, qu'il y ait que ça vienne pas de nulle part. C'est pas du tout là, je parle pas de l'inspiration au sens la fille seule dans sa tête. C'est repenser après, mais sur le moment, quand j'écris, par exemple, je suis les personnages, je suis chacun des personnages. Parce que je veux qu'il y ait de l'humanité. Je n'en juge aucun. Et donc, je lui donne, y compris là, les terroristes. Donc, je me dis, oui, ça, je pourrais le dire, ou je comprends pourquoi. Il faut que je les comprenne absolument de l'intérieur.
Ça veut dire que vous vous confrontez à eux aussi. C'est pas parce qu'il y a un personnage qui ne pourrait ne pas vous plaire ou qui n'aurait pas vos valeurs que vous le laisseriez de côté, vous l'abandonneriez?
Au contraire, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les fragiles, c'est les faibles, c'est pas, et d'ailleurs, on voit, et c'est ça que j'aime bien dans le cinéma américain, c'est que ils construisent leurs héros quand même sur des failles. C'est dans la faille que, parce que pour moi, je pense que l'humanité, elle n'est pas justement mauvaise au départ, que c'est des parcours, c'est des trajets qui rencontrent des obstacles et qui font que ça dévie. Mais chacun a été un enfant. Chacun a eu une chance. Et puis après, voilà, ça s'est mal passé. C'est le parcours de ça s'est mal passé qui m'intéresse.
Alors, puisque vous parlez d'enfance, un petit point sur d'où vous venez, Laetitia Masson. Vous êtes née à Épinal, vous avez grandi à Nancy, vous avez une prof d'anglais et un père enseignant et fan de Godard. Il y avait donc déjà du cinéma à ce moment-là quand vous étiez jeune enfant, mais vous avez voulu d'abord être peintre.
Oh, j'ai voulu être plein de trucs, je voulais être prof de chinois, après je voulais être journaliste. Et après je me suis dit que le cinéma, enfin j'ai senti que le cinéma, dans le cinéma je pouvais mettre tout ça en fait. Je pouvais
prof de chinois.
J'étais filmée un truc à Shanghai. Non, c'est vrai. Je reste avec mes passions mais disons que justement je peux mettre tout chaque geste et ça me ressemble assez bien parce que c'est rien n'est parfait. Mais il y a une envie de comprendre et de connaître, quoi. Et donc.
Mais alors, pourquoi est-ce que le cinéma est justement le réceptacle de toutes ces envies, selon vous? Parce qu'en plus, vous l'avez dit, le cinéma, on peut écrire, vous inventez, vous scénarisez, vous écrivez les dialogues, vous réalisez. Donc, vous avez la main sur tout, ce qui est génial. Mais c'est aussi une industrie contraignante. Vous avez parlé beaucoup de budget depuis tout à l'heure. On sent que c'est quand même quelque chose qui influe sur votre façon de travailler.
C'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois il y a une partie artistique, il y a une partie humaine, puis il y a une partie commerciale. Et cette partie commerciale, si j'y étais pas confrontée, je me serais déjà retirée du monde depuis longtemps. J'habiterais dans une cabane et c'est ma vraie nature. Mais d'être obligée pour gagner ma vie, parce que j'ai pas d'héritage, pour gagner ma vie, de me confronter au système et d'essayer de le convaincre, alors que vraiment moi je suis à la marge, que je résiste beaucoup à justement à la loi du marché, etc. Donc du coup j'ai l'impression d'être dans des entretiens d'embauche tout le temps, comme n'importe qui. J'ai pas perdu le contact avec mes convictions politiques, c'est-à-dire je rejoue ma vision politique par moi-même. Je suis, j'ai dit une fois déjà, mais je suis la souris de laboratoire pour mes propres travaux. Je sais ce que c'est que d'être humilié, je sais ce que c'est que ramer, je sais ce que c'est que... Vous voyez, je ne perds pas ça parce que, justement, par ma position radicale dans ma façon de faire, qui est très artisanale et qui est très...
C'est ça votre position radicale ? Votre radicalité qui peut heurter, qui peut faire que vous...
Oui, alors...
Et tout, c'est quand quoi vous cette radicalité?
Quand vous me dites ça, je me dis, bah oui, c'est pas très radical.
Mais non, c'est pas une manière de dire ça, mais...
Non, mais c'est vrai que moi, je trouve pas que c'est très original ni très risqué, ce que je propose. Mais par rapport au système, visiblement, ça l'est. Donc, je réfléchis à pourquoi, comment. Mais faut dire aussi que la société évolue assez vite maintenant. Donc, entre le moment où j'ai commencé... Mais moi, je faisais mon premier film, c'était une jeune fille qui était licenciée, qui était au chômage pendant le film. À l'époque, on m'avait dit, ah non, c'est bon, la communiste qui veut parler des chômeurs, c'est bon, laisse tomber. Et donc, ça, c'était le début. Et aujourd'hui, c'est d'autres sujets, mais c'est toujours, visiblement, je suis toujours décalée.
On va retourner au début.
Bon, vous êtes capable d'aller jusqu'où pour avoir ce boulot-là?
Mais moi, je suis capable d'aller très loin. C'est là où vous vous trompez. Moi, si je vous réponds comme ça, c'est parce que j'ai besoin de ce travail, c'est tout.
Pourquoi vous avez tant besoin que ça?
Mais parce que j'ai besoin d'argent.
Pourquoi vous avez besoin d'argent?
Mais parce que j'ai envie de faire des choses, parce que j'ai pas envie de rester dans cette ville de merde, et parce que j'ai pas envie de rester chez mes parents. Parce que ça va pas chez mes parents.
C'est quoi vos rêves et vos espoirs?
Bah, il est énorme, mon espoir, c'est que j'ai envie de mettre de l'argent de côté, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, faire les choses que j'ai envie de faire.
Vous rêvez à quoi?
J'ai envie de chanter, voilà.
Mais chanter quoi?
Bah, des chansons. Chanter quoi? Je vais pas vous chanter de...
Vous savez chanter?
Bah oui, j'ai chanté, j'ai pas envie de chanter comme ça dans le vague, hein.
Un extrait de votre film, Laetitia Masson, En avoir ou pas, c'était en 1995 avec Sandrine Kiberlin, qu'on vient d'entendre dans le rôle principal.
Et Didier Flamand qui lui donne la réplique, qui était excellent.
Vous en parliez justement il y a quelques instants, ce premier long métrage avec d'abord une rencontre, celle avec cette actrice Sandrine Kiberlin, et puis l'idée de, comment dire, de montrer des choses... qui sont proches du réel, en tout cas d'être ancrées dans une forme de réel, de réalité. Qui était la vôtre peut-être à l'époque et qui est peut-être toujours la vôtre.
Oui, enfin, le réel de tout le monde, en fait, c'est ça. Le mien, je m'en fous un peu, mais c'est, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le réel des gens. Comme moi, je suis provinciale, on oublie à Paris, parce que on croit que Paris, c'est le réel, mais c'est pas tout à fait le réel. Quand on va en province, là, c'est le réel. Et c'est pas du tout, ça rigole pas du tout. Et donc, mais je me rends compte qu'à l'époque, je faisais des films sur des gens qui était confronté à un système et que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser le système lui-même. Ce que je fais dans Citoyens clandestins. J'analyse un système politique et... En fait, ça c'est. Ceci dit, chaque individu est un système. Je me vois aussi comme un système et j'essaye de me désystématiser. Mais ça m'intéresse de voir comment c'est fabriqué et contre quoi on lutte et de quoi ça se nourrit, parce que ça se nourrit toujours. Un système, ça se nourrit toujours des fragilités humaines, comme vous disiez, de la faille qui fait qu'on va dire bah oui, ok, on voit bien aujourd'hui, on parle beaucoup des abus de pouvoir. Il n'y a pas que les abus sexuels, les abus de pouvoir dans tous les domaines. Et donc on est tout le temps confronté à ça. Si on dit pas oui, on perd quelque chose. Moi, si je dis pas oui, je perds quelque chose. Vous aussi, j'imagine. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut résister, quel est le prix à payer. Bon, voilà, on voit bien que je suis en boucle par rapport à mes débuts, mais c'est...
Ah non, vous avez quand même changé d'échelle. Vous êtes passé, comme vous le dites,
oui, voilà, de l'individu au système. Et justement, je me suis beaucoup intéressée. Enfin, j'ai fait des portraits de filles, pas mal. Et là, ce qui m'intéressait beaucoup dans Citoyens clandestins, c'est que c'était écrit, c'était un monde d'hommes. Je pense qu'aujourd'hui, ça a peut-être changé, même les services secrets, etc. Mais donc, de filmer tous ces hommes, en plus, tous ces hommes en costume, avec la costumière, on se disait, mais alors attends, comment on le voit quand on rentre dans des administrations, on voit beaucoup de gens en uniforme. Et qui se cache derrière les uniformes? C'est tout ça qui m'intéresse.
Vous parliez justement de liberté. Quel est le prix à payer de refuser, par exemple, de faire telle chose? En tout cas, on sait que l'industrie du cinéma, il y a des décideurs aussi qui sont des décideurs financiers. Vous, il y a déjà des projets où vous êtes retiré parce qu'on ne vous laissait pas cette liberté dont vous parliez?
Ah oui, oui, oui. On m'a proposé. Le plus flagrant, c'était par rapport à des publicités. C'est quand vous êtes jeune, au début, j'ai été remarquée, j'ai eu un peu de succès et tout, donc on m'a proposé de la pub. La pub se nourrit aussi des talents comme ça. Et donc j'ai dû renoncer, enfin j'ai refusé parce que c'était, en fait, je refuse jamais pour des questions. On pourrait croire pour des questions artistiques parce que je voudrais justement imposer mon style ou c'est jamais ça. C'est quand ça n'est pas juste du point de vue politique pour moi. Et donc, c'était un truc pour McDonald's, surréaliste, des histoires aujourd'hui, tout ça est passé parce que aujourd'hui, le système intègre ses propres contradictions. Moi, à l'époque, c'était pour McDo, il fallait proposer un projet et c'était un père avec son enfant au McDo. Et moi, on m'a dit, ben non, c'est pas possible parce que nous, McDo, c'est la famille, s'il faut qu'il y ait la femme. Je dis, mais non, ce qui est intéressant, c'est de montrer que d'un coup, ils sont là, le père et l'enfant et tout ça. Maintenant, donc j'ai dit, bah ok, et aujourd'hui, ça passerait tout à fait, parce que le système intégré que bah il y a un marché des pères seuls avec les enfants. Dès qu'il y a un marché, c'est ok pour le système. Mais bon, les marchés changent, mais je suis très sensible. Je suis pas dupe, en tout cas, je vois bien comment ça fonctionne. Et dès que je vois que je ne veux pas participer à ça...
Quel est votre rapport on parlait du réel, on parlait aussi, et en préparant cette émission, j'ai lu que vous alliez justement chercher les endroits où vous allez tourner de manière très très minutieuse. Vous partez en tournée en France, c'était le cas notamment donc pour en avoir ou pas. Votre rapport au documentaire, par exemple, ça c'est un endroit où on peut aussi faire changer les choses, avoir un discours, montrer le réel. Comment est-ce que vous voyez ce genre-là?
Alors pour moi, il y a des documentaires que je trouve fantastiques. Moi, justement, je me suis confrontée une ou deux fois au documentaire. C'est pas pour moi, parce qu'en fait, c'est pas le réel. On cadre le réel. C'est-à-dire, on arrive avec une caméra, on décide de ce qu'on va filmer. Et même dans le documentaire aujourd'hui, moi, j'ai eu des expériences où j'ai renoncé. J'ai abandonné, enfin j'ai refusé de plier parce que, enfin pas de plier mais disons de rompre, je fais comme le roseau, je veux bien plier mais jusqu'à un certain point, et parce que on me demandait de contredire ce qui s'était passé ou de manipuler le réel. Donc en fait la partie documentaire, je la fais justement en allant sur place, en voyant les lieux, les gens, en écoutant ce qu'ils me disent, mais sans le filmer, sans le manipuler. Je m'en nourris comme d'une source de vérité, disons. Mais si je dois moi faire un objet à partir du réel et dire c'est ça le réel, j'ai beaucoup de mal parce que je ne veux pas, par exemple, si on interviewe quelqu'un qui est ému et que son émotion l'envahit, eh bien moi j'ai envie de couper la caméra. Alors que par rapport à ce qu'on attend au spectateur, l'émotion c'est ce qu'on cherche, c'est ce qui a le plus de prix. Donc on veut que la caméra continue à tourner. Ça je refuse. Parce que je sais que moi quand je suis filmée par exemple, je trouve ça très 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 violent.
Vous êtes filmée en ce moment d'ailleurs.
Oui, ben justement, j'en parlais avec un jeune homme dans le couloir. J'ai dit, ah, c'est filmé, je comprends pas, parce que ce qui est beau à la radio, c'est la voix, c'est le mystère de la voix. Pourquoi on filme tout maintenant? Je pense qu'il y a trop d'images qui ne sont pas des images pensées, mais qui sont des images de flux, où justement, je sais pas quelle tête je vais avoir, mais au secours.
Nous non plus,
et
on sait pas.
Voilà, c'est ça.
Assurez-vous.
Mais ça n'a pas d'intérêt de se voir tout le temps. Enfin, mais je sais que les réseaux se nourrissent. L'image est devenue un langage parlé, quoi. Alors que pour moi, c'est un langage sacré.
D'où le silence ?
Ben, le silence, j'adore. Non, mais c'est la musique, la voix des chanteurs, c'est un truc extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'image tout le temps. Pour moi, je me disais, je finis par comprendre les religions où on dit, ben non, pas de représentation, parce que c'est quand même c'est une chose de représenter le réel. Et justement, de le représenter par la fiction, c'est vraiment un travail, on pense, ce qu'on... Justement, à l'époque, un ouvrière, ou là, aujourd'hui, un tueur, c'est quoi un tueur? C'est pas l'image d'un tueur. Beaucoup dans le cinéma, les séries nous amènent des images et des images. On colle des images sur mais la réalité, quand on voit les vrais, moi, j'ai rencontré un garçon qui faisait partie de la, je sais plus si c'est de la BRI ou de la, et c'était une personne, quoi. C'était pas l'image de, c'était pas les gens qu'on voit dans les séries. C'était tout autre chose.
Pas une caricature, vous voulez dire.
Pas une caricature, ouais. Une vraie personne avec qui était autre chose que ça, mais qui étant ça était tout à fait fascinante, ouais.
Merci beaucoup Laetitia Masson, on s'approche de la fin de l'émission. Je rappelle que Citoyen clandestin est diffusé sur Arte depuis jeudi dernier et que c'est disponible sur la plateforme Arte.tv jusqu'en septembre prochain avec au casting notamment Raphaël Quenard, Naïlia Arzoun, Gringe, Pierre Arditi, Nicolas Duvauchel, Frédéric Pierrot et Laurent Stocker.
Et pour finir, Laetitia Masson, nous avons choisi deux chansons en référence au titre de votre série. Une chanson avec le mot citoyen, une chanson avec le mot clandestin. Laquelle souhaitez-vous écouter ?
Clandestin.
Près des rues blanches au soleil de papier, j'ai des infaciles et du sable sous les pieds. Vous êtes belle mademoiselle, cheveux d'or et peau de miel, mais je parle seul et vous dansez jusqu'au ciel. Partir si loin pour chercher ma maison, courir un peu plus vite et retrouver ma déraison. Quand par le prochain train clandestin, interdit de séjour, il faut quitter le pays qui t'a donné le jour. Exilé, chassé par le désir, tu n'as plus de racines et tu crains ton avenir. Quand cette personne...
On s'est plongé dans les années 70, Laetitia Masson avec le groupe Octobre qui chantait Clandestin. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssa Twindoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. C'est Nicolas Berger qui réalise l'émission et à la prise de son ce midi, Florent Bujon. À demain Géraldine, merci.
À demain Nicolas.